Les informations avec Oana Favennec. Bonsoir Oana.
Bonsoir Antoine Janton, bonsoir à tous. La procréation médicalement assistée, ouverte à toutes les femmes. Le texte de la loi de bioéthique a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Où en est-on par rapport à nos voisins européens? Nous ferons le tour dans un instant. Le silence à l'usine Ford de Blanquefort, interruption de la production un peu plus tôt que prévu. Les ouvriers ont fait leur carton avec une semaine d'avance. Des nominations en pagaille dans le monde de la culture. L'une d'elles hérisse le monde du cinéma, celle du nouveau directeur du CNC, auteur d'un récent rapport sur le financement du 7e art. Ses premiers mots ont été pour promettre un Brexit sans concession, avec ou sans accord. Boris Johnson est le nouveau Premier ministre britannique. C'est la première grande réforme sociétale d'Emmanuel Macron. L'ouverture de la PMA à toutes les femmes, et pas seulement celles qui sont en couple avec un homme. Le projet de loi de bioéthique a été présenté en Conseil des ministres ce matin, en plein cœur de l'été. Lors de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous, on se souvient des manifestations monstres d'opposants. La manif pour tous en tête. La manif pour tous qui espère bien renouveler cette mobilisation. Et parmi les intellectuels qui font part de leurs réserves par rapport à la PMA, pour toutes, la philosophe Sylviane Agacinski. Elle est interrogée par Antoine Marette.
Un enfant, d'abord, c'est une personne. Et pour moi, c'est difficile de le penser comme l'objet d'une commande et d'une sorte de fabrication par des matériaux a priori anonymes. C'est d'abord ça. Ensuite, je vous rappelle quand même que la Convention internationale des droits de l'enfant dit qu'un enfant a droit à connaître ses parents, ses origines, et à être élevé par eux. Pourquoi dit-on ses parents, ses origines? C'est toujours un pluriel. Il y a là un phénomène qui est simplement universel. C'est-à-dire que ce soit par le moyen technologique, biotechnologique ou naturellement, l'enfant, il a de toute façon une origine bisexuée. Et alors là, on va décider que la filiation qui normalement prend son modèle sur cette procréation bisexuée, on va décider que la filiation sera monosexuée. C'est un vrai problème anthropologique, je le pose simplement. On peut y répondre peut-être de différentes façons et dire que ça n'a pas d'importance. Les conséquences ne sont pas simplement psychologiques. Un enfant se rapporte à ceux qui lui ont donné la vie comme à des personnes, hommes et femmes, et il se situe par rapport à ça. Alors si maintenant on pense que effectivement le sexe n'a rien à voir avec la filiation et avec la procréation, on peut dire bon, bah, ça n'a pas d'importance. Mais c'est un changement d'anthropologie d'une certaine façon.
La philosophe Sylviane Agacinski, contactée par Antoine Marette. Avec cette loi de bioéthique, la France deviendrait le 12e pays européen à autoriser la PMA aux femmes seules ou en couple avec une autre femme. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir Oana.
En matière de PMA, la carte de l'Europe est un vrai patchwork. Chaque État membre décide pour lui-même en cas d'adoption du projet de loi. La France serait le 12e à ouvrir ce droit.
Effectivement, pour l'heure, 9 pays européens, dont la France, considèrent la PMA comme un traitement médical qui vient pallier une infertilité ou une maladie génétique. Elle est du coup réservée aux couples hétérosexuels en Allemagne, en Italie, en République tchèque ou encore en Roumanie. À l'inverse, 11 pays considèrent que la PMA relève d'un choix personnel, voire d'un droit pour les femmes seules ou en couple. C'est le cas de l'Espagne et du Portugal, de l'Irlande et du Royaume-Uni, du Benelux, des pays scandinaves et de l'Autriche. Enfin, 8 autres pays ont ouvert la PMA aux femmes seules, mais pas aux couples homosexuels, de la Grèce à l'Estonie, en passant par la Pologne et la Hongrie.
Question de religion, Louise ?
Alors plus vraiment, c'est vrai que les pays de tradition catholique et orthodoxe ont été au départ plus rétifs que les pays scandinaves de tradition protestante, mais ce prisme s'estompe. Ainsi, l'Espagne, pays en pointe sur le sujet, mais aussi l'Irlande et le Portugal ont ouvert la PMA aux couples homosexuels. Pourtant, l'Église catholique y est encore très influente.
Autre sujet soumis à interprétations diverses, l'anonymat du don de sperme.
Oui, certains pays comme la Suède, le Danemark, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni ont inscrit dans la loi le droit de connaître ses origines et donc l'identité du père biologique. Mais attention, celui-ci n'a aucune obligation vis-à-vis des enfants. En l'occurrence, on ne confond pas filiation et origine. La levée de l'anonymat recommandée en avril dernier par le Conseil de l'Europe qui représente 47 pays européens.
Louise Baudet. La canicule touche également nos voisins européens du Nord. Des records de chaleur absolue ont été franchis aujourd'hui. En Belgique, par exemple, où 38,9 degrés ont été mesurés dans le nord-est du pays. Aux Pays-Bas aussi, qui a enregistré 38,8 degrés dans le sud. En France, 20 départements ont été placés en vigilance rouge canicule. Tout le nord de la France, Île-de-France incluse. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, enchaîne les messages de prévention envers les populations à risque, bien sûr, mais aussi le reste de la population qui doit appliquer les principes élémentaires de précaution, s'hydrater, éviter tout effort physique en cas de forte chaleur. Un festival de nomination dans le monde de la culture. 17 en tout, acté aujourd'hui en Conseil des ministres. Éric Ruff est reconduit à la tête de la Comédie française, Catherine Pégard au château de Versailles. L'allemand Alexander Nief est nommé à l'Opéra de Paris. Plusieurs proches d'Emmanuel Macron font partie de la liste. Le nom de Dominique Boutonnat au CNC fait particulièrement frémir le monde du cinéma. C'est l'auteur d'un rapport controversé sur le financement du 7e art, qui prévoyait notamment d'ouvrir un peu plus la porte au secteur privé et notamment au fonds d'investissement. Cécile de Kervas-Doué.
Oui, le rapport publié en mai avait fait l'effet d'une bombe pour de nombreux cinéastes. Un collectif suivi par 7000 réalisateurs avait lancé une pétition contre la nomination alors pressentie de Dominique Boutonnat. En cause, sa proximité avec le président de la République, dont il a été l'un des premiers donateurs pour la campagne présidentielle, comme l'avaient révélé les Macron Leaks, et qui ferait penser que son poste à la tête du CNC serait un renvoi d'ascenseur. Car contrairement à ses prédécesseurs, Dominique Boutonnat n'est pas fonctionnaire ni haut dirigeant. C'est un producteur assez peu connu qui a obtenu l'année dernière un agrément pour créer sa Sofica, c'est-à-dire une société de financement privé du cinéma. Et c'est ce qui dérange bien des acteurs du secteur. Il est également auteur d'un rapport sur le financement du cinéma, rendu public donc au mois de mai, dans lequel il écrit qu'il faut favoriser l'investissement privé du cinéma, notamment via les Sofica. Et accroître la rentabilité des œuvres. C'est écrit en toutes lettres dans ce document qui manie les mots à la mode, fonds d'investissement, blockchain et smart contrat. Il explique que malgré le très bon chiffre du cinéma français, c'est 300 films par an, 200 millions d'entrées, dont 40% pour les films français, le secteur doit opérer sa mutation. En cause, les difficultés de Canal+, qui jusque-là était le principal bailleur de fonds du cinéma, et surtout la concurrence des plateformes américaines. Jugé parti alors, Dominique Boutonnat, c'est ce qui se dit en tout cas dans le milieu, même si le CNC et certains producteurs ont fait paraître ce soir des communiqués pour saluer le nouveau président et rendre hommage à un rapport qui, selon eux, serait mal compris. Mais pour le collectif de cinéastes, pour les étudiants de la FEMIS, pour d'autres organisations professionnelles qui ont réagi également ce soir, Boutonnat est vu comme un loup dans la bergerie. Beaucoup craignent à terme une reprise en main du 7e art par des spéculateurs financiers.
Cécile de Kervas-Doué. Les machines se sont tues à l'usine Ford de Blanquefort, un peu plus brutalement que prévu. On se souvient de l'engagement de Bruno Le Maire dans le dossier, des promesses de l'État, de l'offre de reprise par le Strasbourgeois Punch Powergrid, offre refusée par Ford et finalement de la validation du plan social. Résultat, arrêt définitif de la production des boîtes de vitesse annoncées au 31 juillet, dans une semaine donc. Mais les employés qui se sont présentés ce matin à leur poste ont été renvoyés chez eux. Frédéric, qui travaille chez Ford depuis 29 ans, a donc fait ses cartons, la mort dans l'âme. Marie-Jeanne Delepaule l'a rencontré à la sortie de l'usine, les bras chargés de toutes ses affaires.
On a vidé tous nos placards. J'ai toutes mes affaires de travail, une cafetière de café. Là, c'est fini, on part. Ça s'est fait ce matin, notre contremaître. Il est venu nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'était plus la peine de revenir ni demain, ni les trois prochains jours de la semaine prochaine. On reste chez nous, on ne vient plus dans l'usine. C'est quelques jours de plus tôt que prévu. Certains l'ont bien pris, mais la majorité un peu plus dur. Il y a un côté, on va dire, nostalgique. On a quand même travaillé la plupart du temps dans cette usine. Et là, du jour au lendemain, on ne reviendra plus travailler dans cette usine. Il va falloir qu'on recommence une vie ailleurs. Ceux qui vont partir en retraite, ça va aussi. Mais la majorité qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire 52, 54 ans, se posent la question, que vont-ils trouver ?
Frédéric, salarié de Ford à Blanquefort, au micro de Marie-Jeanne Delepaule de France Bleu Gironde. Selon la direction, le 10 juillet, Ford comptait 860 employés, dont 660 ouvriers. Parmi eux, un quart est parti ou va partir en pré-retraite. Un quart a trouvé une solution de reclassement. Les salariés seront en congé, payés en août, et les premières lettres de licenciement seront envoyées à partir du 1er septembre. Theresa May a quitté le 10 Downing Street, laissant sa place à Boris Johnson. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
Le nouveau Premier ministre est sorti sur le perron de sa nouvelle demeure et ses premiers mots ont été pour promettre un Brexit sans concession.
Absolument, avec un discours résolument optimiste tout de même. Nous allons travailler pour donner à ce pays la première place, la place qu'il mérite, explique Boris Johnson, en relançant l'investissement, les industries de pointe, en construisant des satellites, en mettant en place des abattements fiscaux pour les entreprises innovantes. Et évidemment, le Premier ministre s'intéresse de près au dossier du Brexit. Il faut trouver un terrain d'entente avec Bruxelles, dit-il, mais nous devons nous préparer à la possibilité de sortir sans aucun accord. Nous ne payerons pas, dans ce cas-là, la facture de sortie. Boris Johnson parle évidemment des 45 milliards d'euros négociés avec Michel Barnier, qui sont censés couvrir les projets que le Royaume-Uni s'est engagé à financer jusqu'en 2022. C'est donc un nouveau bras de fer qui s'engage. Côté annonce au gouvernement, il n'y a pas encore d'annonce officielle sur la composition. Ce qui est sûr, c'est que les ministres seront tous favorables à un Brexit dur. Philippe Hammond à l'économie, David Gauck à la justice, Penny Mordaunt à la défense, qui faisaient tous trois partie de l'équipe de Theresa May et qui défendaient une sortie en douceur, démissionnent. Liam Fox au commerce international, qui ne voulait pas partir, vient, lui, d'être démis de ses fonctions.
Antoine Gignot à Londres. Les gens ne lisent pas le livre, mais ils vont regarder le film, résumé le New York Times. Le livre, c'est le rapport Mueller, 400 pages sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine, sorti il y a 4 mois. Le film, c'est l'audition du procureur spécial Robert Mueller, qui a débuté cet après-midi devant le Congrès, sous les yeux de millions d'Américains. Même Donald Trump a promis d'y jeter un œil brièvement. Loïc Loury a suivi le début de cette prise de parole, durant laquelle Robert Mueller a rappelé que le président américain n'était pas exonéré de responsabilité.
Donald Trump aurait-il été poursuivi pour obstruction s'il n'avait pas été président? Question centrale de cette première audition, celle que les démocrates attendent depuis des mois de poser à Robert Mueller. Jerry Nadler, à la tête de la commission judiciaire de la Chambre, l'a rapidement souligné.
Toute autre personne qui agirait de cette façon aurait été poursuivie en justice. Et dans ce pays, même le président n'est pas au-dessus de la loi.
Mais Robert Mueller reste droit dans ses bottes. Non, son rapport n'exonère pas Donald Trump pour l'effet d'obstruction à la justice, mais un président en exercice, répète-t-il la voix tremblante, ne peut pas être inculpé. Le procureur spécial rappelle une fois de plus qu'il n'est pas là pour faire de la politique.
Le rapport est mon témoignage et je n'en dirai pas plus. Je ne ferai pas de commentaires sur les actions du ministre de la Justice ou du Congrès. C'est comme procureur que j'ai été nommé.
Robert Mueller, sans surprise, s'exprime donc dans les limites de son rapport d'enquête. Le procureur spécial répond surtout par oui ou par non, confirmant ce qu'il avait déjà écrit dans ce document de 448 pages. Objectif pour l'opposition, faire en sorte justement que le contenu de ce rapport long et aride, mais parfois accablant pour Donald Trump, parvienne enfin jusqu'aux oreilles de l'opinion publique. Quant au président, il dénonce depuis plusieurs jours une perte de temps. Ça ne l'a pas empêché de tweeter une dizaine de fois dans la matinée.
Loïc Loury à Washington. Facebook a trouvé un accord à l'amiable avec l'administration Trump. 5 milliards de dollars pour clore une enquête qui visait le réseau social sur la protection des données personnelles. La Commission fédérale du commerce, composée de 5 personnes, a voté pour à 3 voix contre 2. La correspondance de Loïc Piala en Californie.
Au sein de Facebook, un comité sera désormais chargé de surveiller les pratiques de l'entreprise en matière de vie privée. Les membres de ce comité ne pourront pas être renvoyés par le seul Mark Zuckerberg, une mesure prise pour contrecarrer ce que la FTC, la Commission fédérale du commerce, qualifie de contrôle illimité du créateur du réseau social. Zuckerberg et d'autres dirigeants devront chaque trimestre confirmer à la FTC que leur firme respecte bien les conditions de l'accord. Ils ont l'obligation d'informer sous 30 jours la Commission en cas de fuite de données concernant au moins 500 utilisateurs. indicateurs. Et pendant 20 ans, un autre organe indépendant, celui-là, surveillera lui aussi les pratiques du groupe qui comprend Instagram et WhatsApp. Un avocat du géant de la technologie parle de changements majeurs dans son approche de la vie privée. Les membres démocrates de la commission et d'autres observateurs jugent quant à eux que les sanctions manquent de sévérité. 5 milliards de dollars, c'est moins d'1% de la valeur de Facebook en bourse.
Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture. Inquiétude sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a démissionné hier et le bulletin hebdomadaire qui rend compte de l'évolution de cette fièvre hémorragique dans le pays n'a pas été distribué aux médias. Devant l'urgence de la situation sanitaire, la Croix-Rouge lance une campagne d'appel aux dons. Un point sur la météo, le plus chaud de cet épisode caniculaire est à venir demain. À Paris notamment, la température pourrait atteindre 42 degrés, du jamais vu depuis 1947. À Lille, Rouen, Orléans, Reims, Dijon, Nancy et Strasbourg, le thermomètre pourrait flirter avec les 40 ou 41 degrés, des niveaux jamais enregistrés jusque-là dans ces villes. Peu habituées à vivre de telles vagues de chaleur, les températures pourraient monter à 43 degrés par endroit. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun, prochain journal de la rédaction à 22h, présenté par Ezekiel Fernandez.